Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.
Chut, on écoute la télé avec votre jardinerie Aste Vert, votre spécialiste jardin, alimentation animale et motoculture à Saint-Astier. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Zoom Radio, la radio Hit and Style en Dordogne avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 18h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Zoom Radio.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro inédit de Chut en écoute, la télé pour ce lundi 14 janvier à la veille de notre départ pour le Festival du film de comédie à l'Alpe d'Huez en partenariat avec l'hôtel Le Castillan et notre restaurant L'Authentique. Nous allons nous rendre sur place pour vous faire vivre évidemment le festival pendant toute cette semaine. Mais avant de partir sans cette émission, nous allons consacrer une partie de cette émission à l'incroyable histoire du facteur cheval. Alors peut-être que vous ne connaissez pas le palais idéal, et après avoir écouté l'émission, vous saurez tout, puisque dans un instant, nous allons recevoir le réalisateur du film, Nils Tavernier, ainsi que les deux acteurs principaux, Jacques Gamblin et Laetitia Casta, pour la première fois dans Chut, on écoute la télé, et on n'est pas peu fiers, je peux vous le dire. Et puis nos coups de cœur télé de cette semaine, cette semaine, évidemment, demain, ça sera le prime inédit de Plus belle la vie, avec des révélations, des secrets en cascade. C'est Stéphane Hénon qui sera notre invité, alias Jean-Paul Bauer, qui viendra nous en parler. Mercredi, ça sera le final de la série On va s'aimer sur France 2. On adore cette série, on va en parler tout à l'heure avec son héroïne Astrid Lartigue. C'est Catherine Marshall qui sera notre invitée. Et puis en fin d'émission, nous vous ferons découvrir le groupe Et la Feuille, un groupe de musique que nous, on a absolument adoré, qu'on a envie de vous faire découvrir absolument aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors Et la Feuille sera avec nous en fin d'émission. Vous l'avez compris, c'est un programme chargé. Alors juste avant d'accueillir l'équipe de l'incroyable histoire du facteur cheval, voici tout de suite les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
En lundi dernier, c'est TF1 qui lançait sa toute nouvelle série inédite, Infidèle, avec Jonathan Zakaï et Claire Keim. Ça a bien fonctionné. 5 223 000 téléspectateurs et 23,6% de part de marché. M6 est juste deuxième derrière, avec Insaisissable, le film, 3 309 000. The Detail, la nouvelle série de France 2, est à 2 622 000. Et l'Odyssée des Forçats de France 3 est à 1 478 000. C'est un petit score. Mardi, très beau score pour TF1 qui a dégainé sa toute nouvelle série américaine SWAT avec Shimar Moore. Vous avez été 4 980 000 téléspectateurs à découvrir cette série, 21,7% de part de marché. Mais très beau score pour France 3 derrière et son téléfilm Un mensonge oublié dont on vous parlait avec Théo Frilé la semaine dernière. C'est 4 397 000 téléspectateurs et 18,7% de part de marché. Petit démarrage par contre sur M6 pour Le Patron Incognito, seulement 2 414 000 téléspectateurs et 10,6% de part de marché. Et puis mercredi, tout le monde était dans un mouchoir de poche. TF1 arrive de justesse en tête avec New York Unité Spéciale et ses 2 959 000 téléspectateurs, 13,3% de part de marché. Mais On va s'aimer sur France 2 arrive juste derrière avec 2 880 000 téléspectateurs, 13,2%. Et puis Maison à vendre sur M6 arrive avec 2 707 000 à la troisième position. Donc vous voyez, tout le monde est dans un mouchoir de poche. Et jeudi sur TF1, évidemment, c'était Profilage, la toute nouvelle saison inédite qui arrivait avec 5 081 000 téléspectateurs, 23,8% de part de marché. C'est un très beau score. Envoyé spécial arrive deuxième avec 2 583 000 téléspectateurs, 11,5% de part de marché. Et par contre, c'est un échec pour The Bridge sur M6 avec seulement 1 306 000 téléspectateurs et un tout petit 5,8% de part de marché. Ça sent la déprogrammation rapide, ça. Et puis vendredi, c'est Shérif qui arrive en tête des audiences très largement sur France 2 avec 3 923 000 téléspectateurs, 17,5% de part de marché. Et Big Bounce sur TF1 arrive loin derrière avec même pas 3 millions de téléspectateurs et 15,8% de part de marché. NCIS est juste derrière avec 2 874 000 et un petit score pour la télé des années 90 à 1 867 000 seulement.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, deuxième émission de l'année, deuxième coup de cœur ciné évidemment, puisque mercredi dans les salles sort l'incroyable histoire du facteur cheval, un film de Nils Tavernier qu'on a eu d'ailleurs le plaisir de rencontrer pour le film De toutes nos forces avec Alexandra Lamy. Bonjour Nils et merci d'être avec nous.
Bonjour, je suis ravi d'être là.
On a également la grande chance d'avoir, on va commencer par les dames, d'avoir Laetitia Casta, dont moi je suis totalement fan depuis plus de 15 ans, où je parlais de Laetitia à la bicyclette bleue à tout le monde, qu'il fallait absolument voir cette mini-série. Et depuis, je la suis, dans tous ses projets. C'est une première. Donc, je suis très heureux de la rencontrer. Bonjour Laetitia.
Bonjour. Merci beaucoup.
Et Jacques Gamblin également, c'est une première dans l'émission. Alors moi je suis tous vos films aussi, Jacques. Je suis fan aussi, je veux pas faire de jaloux. Mais une petite préférence pour Laetitia quand même.
Vous avez raison.
Merci d'être avec nous, Jacques. Alors, cette incroyable histoire du facteur cheval, je pense que vous êtes très nombreux à méconnaître cette histoire. Et moi, je trouve fabuleux de pouvoir la faire voir au plus grand nombre et de montrer cet homme et l'histoire de cet homme au plus grand nombre. Comment vous est venue cette idée, Nils?
C'est une histoire qu'on m'a proposée. C'est une productrice qui s'appelle Alexandra Fechner, à qui on avait proposé un texte qui racontait l'histoire du palais, du facteur cheval et du personnage. Je suis allé voir le tombeau, le palais, qu'on a appelé palais idéal, que lui a appelé palais idéal, et je suis tombé sur une structure architecturale dingue. C'est l'histoire d'un homme qui, avec des cailloux, construit une sorte de terrain de jeu formidable, complètement romantique, probablement pour sa fille. Et là, je me suis dit forcément qu'il y avait un film très violent, doux et réconciliant à la fois à faire.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les films où on passe les époques comme ça, on voit le vieillissement des personnages. Comment est venu Jacques, justement, tout de suite pour incarner ce facteur cheval? Est-ce que c'est venu immédiatement?
Moi, je suis très gros Jack. De toute façon, j'ai fait deux films, je l'ai prouvé. On a écrit le film pour Jacques. C'est un film qui est pas très bavard. Et j'avais besoin d'un acteur qui puisse, avec son regard et avec son déplacement, raconter plein de choses. Et ça, Jacques, il le fait de manière formidable.
À tel point que quand on regarde le film, on peut même pas imaginer quelqu'un d'autre incarner ce facteur cheval. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu l'impression en regardant cet écran, en transposant l'histoire, dans les années 1800. On peut pas imaginer, justement, tellement c'est bien joué.
Merci. Moi non plus. Je n'ai pas... J'avoue que je n'ai pas...
Imaginez un autre acteur le jouer à ma place.
J'avoue que quand Nils m'a proposé de jouer ce personnage, je n'ai pas imaginé un autre que moi. Je dois le dire avec beaucoup d'humilité, oui. Non, j'ai sauté sur la proposition, j'ai pas attendu 15 jours avant de répondre. C'est un tel rôle, un tel personnage, un tel investissement. Il y a tellement de choses à raconter sur le mystère de ce personnage. Que j'ai foncé mes têtes baissées, évidemment.
Comment s'y prépare justement à jouer un personnage qui existait comme ça? Vous êtes documenté, vous êtes rendu à Haute-Rive, dans la Drôme, pour voir justement ce palais idéal avant le tournage?
Bien sûr, j'ai été m'informer, j'ai été visiter le palais, j'avais besoin de le faire en solo, d'être seul avec cette œuvre de nuit, de jour, et puis ensuite de rencontrer Pierre Constant qui a restauré le palais pendant des années, de l'écouter, cet homme-là, avec qui est quelqu'un qui a communiqué fortement comme ça avec lui en restaurant le palais pierre après pierre, parce qu'il a été un peu quand même détruit avec le temps avant d'être déclaré première œuvre d'art naïf par André Malraux en 69. Et puis j'ai lu des livres, et puis surtout je me suis laissé envahir peu à peu par ce mystère. Je dis ce mystère parce qu'on a très peu de traces sur ce personnage, à part le palais, à part ce cahier d'écolier qu'il a couvert de ses mots sur la façon qu'il a eu de le construire. Mais je crois que c'est une préparation qui est pas seulement physique, pas seulement technique, le travail avec les outils, etc., etc., la façon qu'il avait de faire ça. Parce que ce film, il a mis quelques années avant d'exister, pour des raisons X et Y, il a mis du temps à se décider, et donc ça m'a laissé le temps à moi d'incuber comme ça cette proposition, et puis la deuxième étape, ça a été c'est très précis, l'essayage de ces costumes. Parce qu'il y a des costumes qui ne vous emmènent nulle part, qui vous aident pas à jouer. Et puis cela, c'était tout l'inverse quand j'ai commencé à chausser ce costume du facteur, qui était encore plein d'aiguilles partout. Je me suis regardé dans la glace et en fait je me suis mis à sangloter, et je ne sais toujours pas pourquoi, mais en tout cas ça a été pour moi le signe que ça appuyait là où il fallait que ça appuie, que j'étais là au bon endroit au bon moment, et que j'étais investi de ce ce personnage beaucoup plus encore que dans un premier temps en lisant le scénario. Et plus le tournage avançait, et plus j'étais retourné par ce personnage. Voilà. Après, il s'agissait de le transmettre, ce bouleversement. Bon, c'est ce qu'on a fait, je crois, j'espère.
En tout cas, on a tous été bouleversés en le regardant dans l'équipe. Alors, l'histoire du film démarre au moment où il perd sa première femme, Cheval, justement, et où il va rencontrer sa deuxième femme, Philomène, qui est jouée par Laetitia. Alors, même question, Laetitia, comment on réagit quand on nous propose un rôle comme ça?
Alors, moi, je suis arrivée un peu plus tard que Jacques, et c'est pas plus mal. J'ai pas eu le temps de trop réfléchir. Fallait que je me décide vite. Et en lisant le scénario, j'ai trouvé que c'était une magnifique histoire. Je ne connaissais pas cette histoire du facteur cheval. J'ai tout de suite été voir sur internet les photos et j'ai découvert ce palais incroyable. Et surtout, ce qui m'a énormément touchée, c'est cette histoire entre les deux, le regard de cette femme sur cet homme.
Sa bienveillance, et on a l'impression qu'elle le porte à bout de bras un peu aussi.
Oui, plus que ça, il y a une sorte de... Enfin, je l'ai pas... En tout cas... Je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir jouer ce sentiment-là d'un amour grand, d'un amour, peut-être, qui porte, un amour qui guérit, un amour qui...
Sans condition aussi, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti.
Et peut-être que c'est arrivé à un moment de ma vie, peut-être avec le fait de l'âge, de la maturité, je pouvais peut-être comprendre, je dis pas que je suis l'exemple de ça, mais comprendre un petit peu mieux cette idée de regarder l'autre avec plus d'empathie, avec sans spécialement être dans le sacrifice, parce que c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas vraiment. Et d'ailleurs, je me suis dit, comment pouvoir interpréter ce personnage? Et il fallait pas qu'elle soit dans la revendication, il fallait pas que moi je porte un jugement sur mon personnage, essayer de crier plus fort ou d'être dans quelque chose. Au contraire, à travers la douceur, une douceur ferme, une douceur puissante dans le regard, dans les silences, dans un regard bienveillant. Et lorsque cet homme arrive devant elle pour la première fois, elle le voit tout nu, elle voit son cœur, elle voit son âme, elle sait qu'il est bon, elle sait qu'il est pas comme les autres, et elle va l'accompagner. Et voilà, et ça m'a plu, ça.
Je me suis dit, aussi.
Pas spécialement ça dans tous les films. Et je me suis dit, chouette, quoi.
En tout cas, c'est le film qu'il ne vous faut pas rater mercredi. Ça fait partie de notre patrimoine culturel que là, Nils nous raconte au travers cette histoire. Moi, je vous encourage aussi à aller visiter le Palais Idéal. C'est à Haute-Rive, dans la Drôme. C'est en région Rhône-Alpes. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir. Voilà, et de vous imprégner aussi un petit peu. Je pense que ça va leur amener beaucoup de monde, en tout cas, ce film. On va écouter tout de suite la bande-annonce. L'incroyable histoire du facteur cheval, ça sort mercredi au cinéma.
Vous êtes nouveau ? Je vous ai jamais vu.
Facteur cheval.
Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben, je rêve. Je suis bien quand je marche.
On dit que je suis mariée à un borné. Je sais qu'il est différent. C'est une belle âme.
Qu'est-ce qui t'agace?
Philomène va avoir un enfant.
Cheval! C'est une fille. Oh! Pourquoi rapporter ce rocher? Mais qu'est-ce qu'il fait?
Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Il branche des arbres, les oiseaux me disent comment faire.
Et tu veux faire ça quand?
Le soir, la nuit, après ma tournée.
Mais tu es fou! Et qu'est-ce qu'on va manger? Hein?
Allez, dans un instant, on va revenir avec toute notre équipe. L'incroyable histoire du facteur cheval, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Nils Tavernier, Laetitia Casta, Jacques Gamblin sont avec nous. Vous restez avec moi?
On reste avec vous.
Avec plaisir.
Oui, de tout cœur.
À tout de suite, on revient dans 3 minutes.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chute, on écoute la télé. C'est notre spécial, l'incroyable histoire du facteur cheval. Le film qui sort mercredi dans les salles. On va apprendre, voilà, une très très belle histoire. L'histoire de cet homme qui décide, de construire le palais idéal et qui y consacre 33 années de sa vie, plus 8 années encore pour construire son tombeau. C'est une œuvre prodigieuse pour le coup. Regardez un petit peu les photos, voilà, avant d'aller voir le film aussi. Et vous découvrirez, tout un pan de l'histoire de cet homme, pas comme les autres. Je crois qu'on peut le dire comme ça, Nils.
Ah, c'est un film sur la différence, c'est un film sur l'intégration, c'est un film sur des sujets qui me sont chers depuis longtemps. C'est l'histoire d'un homme qui construit effectivement un palais pour sa fille, qui va jusqu'au bout et qui réussit. Voilà, je trouve que c'est un film qui donne du courage à faire les choses.
Malgré toutes les épreuves qu'il a vécues et qu'on voit durant le film.
Ce qui est formidable, c'est que c'est une vraie histoire. Donc c'est un homme qui pendant 30 ans construit un palais, encore une fois, probablement pour sa fille, pas que, envers et contre tous. Et il y arrive. Et il en tire du bénéfice de son vivant. Voilà, c'est pour ça que c'est un film gagnant, c'est un film qui termine ultra bien. C'est un success story, dans le fond. Vraiment, c'est un Billy Elliot. C'est pour ça que c'est un personnage de cinéma. Il est extraordinaire. Il est pas du tout, du tout comme les autres. Il a une force de frappe qui est démente. C'est un cheval de guerre. Il traverse. D'abord, il meurt beaucoup plus tard que tout le monde. Évidemment, les gens autour de lui, disparaissent parfois parce que à l'époque, on avait une espérance de vie beaucoup plus courte. C'est un héros de cinéma.
On a l'impression que lui, il est parti quand il a décidé, en plus. C'est ça qui est incroyable à la fin du film. On a vraiment cette impression que, voilà, lui, il part au moment où il se dit, voilà, c'est le moment de partir.
Bah, c'est ce qu'on voit chez les enfants, hein. Les enfants, quand ils meurent à l'hôpital, ils choisissent leur moment, hein, de décès. Ils veulent pas que les gens les regardent. Et facteur, pour moi, il a une part d'enfant. D'enfance en lui extrêmement forte. Donc, effectivement, il y a probablement une part de décision de quitter le monde à un moment dans sa vie où il est le plus rempli, peut-être.
Moi, la première question que j'avais envie de vous poser quand j'ai vu le film, c'est comment vous avez tourné, comment vous avez réussi à reproduire en images justement la construction du palais à partir du début.
En fait, ça, c'est pas très compliqué. Évidemment, la problématique, c'était je pars d'un bâtiment qui est terminé et le film, c'est de la construction. Donc, il fallait que je l'anéantisse ou partir. Alors, on a construit juste une petite arche d'abord et ensuite, on a tourné sur le vrai palais qu'on a dessiné. Pour le rapetisser. On a collé des arbres. Voilà. Il y a beaucoup de fonds verts. C'est des techniques qui sont pas ultra compliquées dans le cinéma à l'heure actuelle.
En tout cas, voilà, ça pose la question. Jacques, quelle est la scène pour vous qui a été peut-être la plus poignante à jouer, peut-être la plus difficile?
Mais les scènes poignantes, il y en a beaucoup. C'est un film qui parle peu, qui a du mal à exprimer ses sentiments, ses sensations. C'est un personnage qui m'a totalement épuisé parce que il est très introverti. Il a beaucoup de choses à l'intérieur de lui, mais on lui a pas appris, sans doute, à exprimer. Et je me suis trouvé comme jamais face à des scènes par moments où je ne savais plus comment faire, comment jouer, tellement ce qu'il y avait à jouer était fort.
On avait l'impression, justement, cette intensité, nous on la ressent aussi en tant que spectateur.
Tant mieux.
C'est le but recherché, j'imagine bien. Laetitia, même question. Est-ce qu'il y a une scène particulière qui a été peut-être plus difficile à jouer sur le papier, qui paraissait compliquée pour vous?
J'évoquais tout à l'heure la scène de la perte de l'enfant. C'est toujours quelque chose de très très difficile à jouer, surtout si on ne l'a pas vécu. Donc il fallait aller chercher quelque chose de un sentiment universel. Justement, Jacques en parlait très bien en disant que quand on est acteur, faut pas pleurer sur soi, mais faut aller chercher toujours la justesse de la scène, ce qui est le plus difficile. Mais en réfléchissant aussi, la scène où d'un coup, ça me revient là, l'acteur cheval est en train de délirer totalement, il n'est pas loin de la folie, et elle essaye de le ramener à la vie après la perte de l'enfant. Et pareil, là, il fallait pas être dans le pathos, mais être dans quelque chose de juste, où elle ne le regarde pas, elle regarde à travers la fenêtre, et elle lui parle, il est dans son dos. Il fallait aller chercher une sorte de calme intérieur, et en même temps, où il fallait tout retenir aussi. C'était pas... Il y avait ces scènes-là, où il fallait être concentré, mais en tout cas, à chaque fois, toutes les scènes qu'on avait à faire étaient magnifiques à jouer, et c'était un plaisir de pouvoir aller explorer tout ça. Il y a plein de de scènes fortes à chaque fois.
Juste avant d'évoquer vos projets, avant de se quitter, Nils, comment on se sent à deux jours de la sortie du film? Ou que là, on imagine que le film va appartenir au public, donc voilà, c'est une toute autre histoire.
Moi, je suis tranquille avec Factor. C'est un film que j'aime, j'ai énormément de tendresse, que c'est clairement mon plus beau film. Je trouve Jacques éblouissant, je trouve le couple Jacques et Laetitia ultra gagnant. C'est un film qui fait du bien, on l'a présenté dans plein de salles, les gens en sortent heureux. C'est un film câlin, c'est un film dans l'essentiel, c'est un film qui soigne l'âme, comme pourrait le dire Jacques Gamblin parfois. Je suis tranquille avec ce film, j'ai pas sans arrogance, mais je pense que c'est un film qu'on a fait à chacun de nos postes, on était à notre place sur ce film. Donc j'ai une tranquillité affective et artistique par rapport au film, comme j'ai jamais eu, je dois dire.
Alors pour Laetitia, les projets, il y a un film qui est déjà en salle depuis 2 semaines, hein, depuis le 26 décembre, qui s'appelle
L'homme fidèle.
L'homme fidèle que vous pouvez encore aller voir au cinéma, donc faut en profiter parce que vous pouvez faire double dose de Laetitia Casta en ce moment.
Si ça vous dérange pas.
Bon, et pour le printemps, il y a d'autres projets, Laetitia ?
Oui, il y a le film de Delphine Lorisset qui est adapté d'un roman qui s'appelle Le milieu de l'horizon et aussi une série pour Arte qui s'appelle Animal.
On découvrira bientôt. Et Jacques, les projets pour 2019 ?
Eh bien, moi, je suis toujours en tournée avec mon spectacle Je parle à un homme qui ne tient pas en place, qui sont des correspondances entre Thomas Coville, grand navigateur, et moi-même, lors de son tour du monde, sa quatrième tentative de tour du monde en 2014, à la voile, en solitaire. Il y a des projets de cinéma aussi, dont je ne peux pas encore parler, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont dans des étapes de financement. Et puis voilà, cette tournée de ce spectacle qui finit fin mars et qui sera joué à nouveau à Paris après le Théâtre du Rond-Point au 104 entre le 19 et le 31 mars. Et puis un peu de vacances, c'est bien aussi.
Profitez-en. En tout cas, on est le 14e jour de cette année 2019. Alors je vous souhaite en tout cas une très très belle année à tous les trois. Et je vous dis à très vite. C'est l'incroyable histoire du Facteur Cheval, c'est mercredi dans les salles. À bientôt et merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Bon voyage.
Tout va bien au palais du fou ?
Il est pas fou, mon père.
À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde !
Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel.
Vous êtes dessus depuis combien de temps ? 13 ans.
Joseph !
Il faut qu'il cesse cette folie.
J'ai cru que j'allais la perdre.
Elle a besoin de ta force. Je dois finir.
Tu vas nous faire mourir.
Alice !
Tu vas guérir, Alice. Me laisse pas tout seul.
Indiscrétion, scoop, news, tout de suite, l'infomédia.
Allez, en bref, dans l'infomédia de cette semaine, les portraits des agriculteurs de la nouvelle saison de l'amour et de l'emprès seront diffusés le lundi 28 janvier à partir de 21h sur M6. Le programme présenté par Karine Lemarchand sera donc de retour en prime time pour une 14e saison. Ils sont 10 hommes et 3 femmes âgées de 33 à 60 ans. Cette saison a confié leur destin sentimental à Karine pour briser leur solitude. Le service de vidéo en ligne par abonnement Hulu en voie de passer sous le contrôle de Disney a franchi la barre des 25 millions d'abonnés fin 2018 selon un communiqué publié. Le portefeuille d'abonnés de la plateforme a progressé de 48% sur un an et doublé depuis fin 2016. Lancé en 2008 pour prendre le train du streaming, Hulu avait jeté pendant près de 10 ans avant donc d'être convoité par Disney. Camille Combal prendra les commandes du jeu Qui veut gagner des millions pour la première fois sur TF1 donc le samedi 26 janvier prochain à partir de 21h. Une semaine plus tôt, le 19, après quasiment 20 ans, à la tête d'une des émissions les plus mythiques du PAF, c'est Jean-Pierre Foucault qui a donc passé le flambeau à l'animateur et qui se retrouvera pour la première fois candidat en duo avec Kev Adams, j'ai hâte de voir ça. On retrouvera également dans cette émission Jeff Panaclock et François Berléand, Florence Foresti et Jonathan Cohen. On retrouvera aussi Jérôme Commandeur et Malik Bentala ainsi que Julie Gaillet et Julie Depardieu. Igor et Grishka Bogdanov étaient les invités de Jean-Marc Morandini sur CNews. Ils ont révélé qu'ils allaient relancer leur émission fétiche Temps X. Nous avons aujourd'hui un grand projet, mais ça sera donc sur Internet et TV5 Monde que l'émission sera relancée au mois d'avril prochain. Et le chanteur et acteur Joe Star va jouer dans un épisode de la série de France 3, le Capitaine Marlowe, dont le tournage vient de débuter au parc Walibi d'Agen dans le Lot-et-Garonne. Cet épisode s'intitulera Le Grand 8 et le rappeur et acteur y incarnera Antoine Pavia, le propriétaire du parc.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et demain soir dans nos coups de cœur télé, évidemment, c'est le prime de Plus belle la vie intitulé Secret. On va accueillir Stéphane Hénon dans un tout petit instant. Mais juste avant, voici déjà un petit extrait de ce prime. C'est le teaser avec la nouvelle famille de Riva. Enfin, c'est ce qu'on croit.
Comment ça marche ce truc? Ah voilà, tac, minuteur. Bon, papa, t'es bien à côté de maman?
Oui.
Ma chérie, t'es sur le tabouret?
Oui.
Mon fiston, t'as ton kimono?
Toujours.
Ok, allez. Vous savez quoi? On est une belle famille.
Et bientôt un de plus.
Bon allez. 3, 2, 1.
Allez, on va parler de Plus belle la vie, évidemment, un nouveau grand prime qui sera proposé. Eh bien, ça sera demain soir sur France 3 avec une grande soirée qui démarrera dès 20h20. Et au cœur de l'intrigue du moment, évidemment, c'est Stéphane Hénon, alias Jean-Paul Bauer, qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
comment tu vas?
Eh ben, ça va très très bien. Dis donc, qu'est-ce qui t'en est arrivé depuis un mois et demi? Mais c'est incroyable, tout ce qui s'est passé.
Il m'arrive que des aventures incroyables, tu vois. Que de mauvaises aventures, du coup. Bauer, il se comporte pas terrible quand même, hein, tu vois. C'est vrai que son passé lui revient en pleine figure. En fait, il a eu une liaison avec son indic, ce qu'il faut pas faire pour un flic. Il est tombé très amoureux de cette fille. Et en fait, son petit ami a appris qu'elle le trompait et qu'elle le balançait. Donc lui, il l'a tué. Et en fait, la personne qui a été accusée, c'est le frère de cette nana, Lola. Et moi, je l'ai vengé en handicapant son petit ami.
Et là, évidemment, avec les frères Cortez, c'est là que Bauer, évidemment, prend un peu tout le tournant de cette histoire en s'infiltrant, hein, au cœur des Cortez, hein, des deux frères Cortez.
Et oui, en fait, oui, voilà, ça va. En fait, c'est un des deux frères Cortez, celui qui est en fauteuil roulant, que j'ai mis en fauteuil roulant. Voilà, je m'infiltre chez lui, en fait, pour essayer de récupérer de l'argent pour faire partir le Mathias qui a pris ma place en prison pendant 15 ans. C'est une sorte de... Bon, c'est pas très beau, mais j'essaye d'aménager un peu sa peine, tu vois, d'essayer de calmer un peu sa peine. Donc, j'ai fait un braquage pour aller chercher de l'argent, justement, chez les frères Cortez. Du moins, j'ai braqué les frères Cortez qui ont fait un braquage de bijoux, quoi, hein, qu'on fait un gros braquage de bijoux. Donc, je les ai braqués, justement, pour donner cet argent à Mathias pour qu'il puisse s'enfuir et vivre une vie heureuse.
Avec Allison, loin d'ici.
15 ans qu'il a perdu. Et oui, avec Allison. Et pour aussi rattraper les 15 ans qu'il a perdu en prison.
Alors, c'est une histoire qui a été très, très forte. On sent, évidemment, alors, entre Ariane et Samia, son cœur balance toujours, hein, puisque Samia est devenue un peu sa maîtresse, en quelque sorte. Et Ariane, on sent bien, est folle de lui.
Quand même, hein. Son amante. Ouais. Son amante. Oui, c'est devenu ma maîtresse, ce qui est très drôle. Ouais. Ça a été ma maîtresse à une époque, c'est devenu ma femme, c'est devenu la mère de ma fille, et ensuite elle redevient ma maîtresse. Et voilà, c'est parcours télévisuel plutôt sympathique.
Alors évidemment, hein, dans Plus belle la vie, il y a aussi de temps en temps eh bien, des morts, et là franchement, il y en a une qui nous a vraiment tous vraiment peinés, c'est Titine.
Et je sais. Et tu sais, je suis le premier peiné. Le premier peiné. Franchement, je trouve qu'on s'en est pas assez servi de ce personnage. Que c'était vraiment un personnage à part entière. Et elle va manquer, je pense qu'elle va manquer. Mais qui sait, elle va peut-être revenir d'une façon différente après. Peut-être que les auteurs vont, extrapoler d'autres choses sur Titine. Et ça serait plutôt bien. Je trouve que la liaison était tellement tendre entre Bauer et sa Titine.
C'est vrai.
C'était sa troisième femme, quoi. En comptant d'avoir deux femmes, il en avait une troisième avec Titine.
Est-ce qu'à la fin de ce prime, cette histoire va être bouclée, Stéphane?
Oui, elle est bouclée, forcément, elle est bouclée. Du moins, c'est un prime à part entière, c'est un téléfilm, ça peut être un unitaire, hein, tu vois. Donc, même si c'est dans la continuité de la quotidienne, mais les gens qui n'ont pas vu la quotidienne peuvent voir ce film sans problème, ce téléfilm sans problème, tu vois. Ils comprendront ce qui se passe. Après, elle est bouclée, c'est-à-dire ce que tu veux savoir, c'est savoir si j'ai choisi, du moins si Bauer a choisi une des deux. C'est ce que tu veux savoir.
Ben voilà, Samia, Ariane, alors.
Ben voilà. Et en fait, est-ce que Bauer est capable de choisir? C'est ça le problème. Est-ce que elles ne vont pas choisir pour lui? Est-ce que la vie va pas s'en mêler, tu vois, pour choisir pour lui? Voilà. Là, il faut laisser en suspens. Il faut regarder le prime.
Exactement. Rendez-vous demain, hein, bien évidemment, dès 20h20 pour la quotidienne et à 20h50 après 21h pour la suite.
21h, le prime. Ouais, exactement.
Oui, le temps qu'un si grand soleil sur France 2 brille et que vous reveniez sur la 3, effectivement, entre les deux. C'est bien fait d'ailleurs, hein. Comment vous avez vécu l'arrivée de ce nouveau feuilleton quotidien sur France 2 et justement cette alchimie entre les deux séries où quand il y en a une qui finit, on envoie vers l'autre et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'il y a une belle complémentarité.
On peut même parler des trois séries, tu vois. On peut parler de Demain nous appartient,
bien sûr.
Plus belle la vie et Un si grand soleil. Bah écoute, c'est plutôt bien. Bon, on a été les précurseurs de ce genre de série. Alors au début, on s'est moqué un petit peu de nous. Maintenant, on fait pareil, mais on restera les premiers, tu vois. Les premiers, voilà, ça fait 15 ans qu'on y est. On est ravis qu'il y en ait d'autres parce que ça donne du travail aussi pour les techniciens, les acteurs. En plus, ça nous motive, ça nous permet aussi, ça nous tire vers le haut aussi. On a envie de faire aussi bien ou qu'ils fassent aussi bien que nous, tu vois. Je pense qu'on est en concurrence positive. C'est une sorte de concurrence positive, tu vois, pour tous. Et je trouve que c'est plutôt bien et je crois que les gens l'acceptent bien. Il y a qu'en France, en fait, il n'y avait pas ce genre de série tous les jours, tu vois. Là, du coup, on en a trois et je pense que les trois fonctionnent et les trois ont leur place.
Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait travailler plein de comédiens, voilà, ça c'est sûr.
Et pas que les comédiens, les techniciens.
Toute l'équipe derrière, oui, effectivement.
Voilà, c'est énormément de gens qui travaillent autour de, de ce genre de série, et c'est plutôt bien, tu vois. Mais les mêmes, on a pas mal d'auteurs qui partent travailler sur Un si grand soleil ou sur DNA, les réalisateurs aussi, les techniciens. Bon, les comédiens, c'est un peu plus délicat, hein. C'est sûr que c'est un peu plus délicat, parce qu'on a l'habitude, bon, sont tous les récurrents. Après, t'as pas mal de guests qui vont travailler sur les trois séries, tu vois.
Ah bah oui, on en a vu une dans DNA, celle qui joue Aurélie, la copine de Nathan, qui est dans Demain nous appartient en ce moment.
Exactement, tu vois, donc ça donne du travail à beaucoup, beaucoup de gens, c'est plutôt bien, et surtout ça tire vers le haut, et ça nous permet de progresser, d'améliorer, que ce soit techniquement, au niveau de la lumière, au niveau des cadrages, au niveau, ça a vachement évolué, ça évolue, et puis les mentalités changent, on était vraiment la cinquième roue du carrosse, quand même Plus belle la vie, on avait un côté, il y avait un côté, alors je ne parle pas de tout le monde, mais il y a certaines personnes qui, il y avait un côté un peu snob, en disant, bon ouais, c'est populaire, c'est une série populaire. Mais on s'aperçoit que la série populaire fonctionne. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il y en a deux autres qui sont nés grâce à Plus belle. Et je te dis, ça nous tire tous vers le haut. Et je trouve ça très bien.
Et les trois, en plus, ont du succès.
Oui, exactement. Tu vois, on fait... Alors, un jour, c'est l'un, le lendemain, c'est l'autre. Après, ça dépend de l'actualité. Tu vois, c'est vrai que si on a une actualité forte, ben, on sera un peu plus bas. Tu vois, mais après, les replays sont plus forts. Tu vois, il y a plein de choses qui comme ça. Mais c'est pas très grave. C'est vrai que les trois fonctionnent. Chacun a trouvé sa place, les deux autres ont trouvé leur place, c'était pas évident non plus, tu vois, de trouver une place, un feuilleton aussi fort que Plus belle la vie, ils l'ont trouvé, ça se passe plutôt bien, je pense qu'on est des bons camarades tous et qu'on apprécie le travail de chacun, quoi, tu vois.
En tout cas, demain soir, c'est le prime, avant que Demain nous appartient, fasse le sien, hein. Bientôt, on sait que c'est annoncé pour cette année. En tout cas, vous avez, vous, l'habitude d'en faire au moins un ou deux par an, et c'est avec plaisir qu'on retrouvera donc Secret, demain soir à 21h sur France 3. À l'affiche du prime, donc, on y retrouvera Fabienne Cara, on t'y retrouvera oui. Toi, on retrouvera évidemment Lola Marois.
Lola Marois, on retrouvera Laurent Kérus-Doré, Joachim Lasco, Brian Trésor. Non, mais il y a pas mal de gens. En plus, il y a deux histoires parallèles, bon, la nôtre, et il y a un autre secret avec Joachim Lasco et Laurent Kérus-Doré.
Qui pourrait bien peut-être avoir affaire à sa famille. Voilà, on va voir ça, des secrets de famille.
Voilà, Thomas Riva, voilà. Je pense que tu vas les interviewer.
Bientôt, ils seront bientôt. En tout cas, je vous rappelle aussi que l'équipe de Plus belle la vie, elle sera Luchon, hein, du 6 au 10 février. Vous pourrez voir plein de comédiens là-bas qui seront présents. Donc voilà, je crois que tu y es pas, toi Stéphane, cette année, mais voilà.
Non, je ne serai pas parce que j'ai du travail et parce que je peux pas être à tous les festivals. Et puis aussi, il faut laisser la place un petit peu aux autres. Hein.
Et je crois que tu seras au cinéma en 2019 aussi.
Oui, normalement, il y a Ni Dieu d'y mettre qui doit sortir d'ici peu. Je pense qu'il va faire quelques festivals d'abord et il sortira en salle après.
Eh bien, écoute,
on
suivra ça, bien évidemment, Stéphane. Et puis, si on peut t'inviter à venir faire quelques petites avant-premières, on n'hésitera pas.
Mais n'hésite pas.
On te dit à très vite.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi.
Et Secret, c'est demain soir, c'est Plus belle la vie et c'est à 21h sur France 3. Voici un petit extrait.
Pourquoi tu dis pas la vérité?
Parle-moi!
On m'appuie, on va courir un peu. Allez, viens.
Marie, messieurs, nous trouvons. Faut surtout pas les écouter. Si tu restes caché ici, ils te trouveront pas.
Allez, notre coup de cœur de la semaine, c'est bien évidemment aussi le final de On va s'aimer, saison 2, un peu, beaucoup, passionnément. Moi, en tout cas, j'adore cette série. Et on va suivre donc les deux ultimes épisodes. Ça sera mercredi soir sur France 2 avec Catherine Marchal qui est justement avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ah oui, c'est un coup de cœur cette série. Dès les premiers épisodes de la saison 1, voilà, on était là, on la soutient effectivement et on va découvrir les deux ultimes épisodes. Malheureusement, puisque France 2 pour l'instant n'a pas renouvelé la série, ça va être une déception pour bon nombre de fans et pour l'équipe, hein, j'imagine.
Bah oui, effectivement, parce que la fin est très très ouverte, donc il va y avoir des questions sans réponse, ça va être terrible.
Bon, en tout cas, début de saison 2, alors voilà, le personnage d'Ophélia Kolb, ta fille qui accouche, Mehdi Kechouche qui fait son trou, hein, le Charlotte Desgeorges qui revient au cabinet. Il s'est passé beaucoup de choses, en tout cas déjà sur ces 5-6 premiers épisodes qu'on a vus. Et puis toujours des histoires aussi belles, aussi bouleversantes qu'on peut voir.
Hein. Ouais, on a défendu des affaires assez importantes, assez graves et des sujets. On a abordé pas mal de sujets de société qui sont assez puissants et qui ont fait que la saison 2, je pense qu'elle est assez forte. La saison 1 était bien posée et la saison 2, on est allé beaucoup plus loin dans tout, dans les affaires qu'on a traitées et dans la vie privée des personnages récurrents également.
Quels sont pour toi les sujets plus touchants qui ont été mis en avant, on va dire, dans On va s'aimer, qui t'ont touché le plus, ceux qui touchent les enfants peut-être?
Évidemment, il y a beaucoup de sujets touchants. Il y a même des sujets qui sont rarement à abordés. Il n'y a pas que des sujets qui défendent les femmes, il y a aussi des sujets qui défendent les hommes, notamment ce sujet que je n'ai pas traité moi, mais qui est la reconnaissance sous X pour le père ou pas, voilà, le droit à la paternité sous X n'existe pas pour les hommes. Voilà, c'est des sujets comme ça qui sont rarement abordés. Et moi, il y a un sujet effectivement qui me tient particulièrement à cœur puisque je l'ai proposé aux auteurs de la série, c'est un sujet sur l'autisme. Parce que je suis marraine d'une association qui s'appelle SOS Autisme France, voilà, qui essaye de se battre pour que les enfants autistes puissent être mieux compris et mieux intégrés dans la société. Et les auteurs ont vraiment écrit un superbe épisode qu'on a vu mercredi dernier. C'est Cartman et Elsa Lucchini qui ont interprété les parents. Voilà, c'est un des épisodes les plus touchants pour moi de la saison 2.
Alors je suppose que tu seras devant ta télé mercredi hein, pour découvrir ces deux ultimes épisodes. Quels sont les guests qu'on va voir pour ces deux derniers ?
Alors on a Éric Savin et Carole Richer et on va traiter sur ces deux derniers épisodes d'une seule affaire. Voilà, une affaire qui va courir sur les deux épisodes, ce qui va permettre de la développer encore plus. Et donc on aborde le sujet difficile des violences conjugales. Sujet délicat et qui est très important, dont on a déjà beaucoup parlé, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Et donc Astrid Lartigue va devoir défendre cette femme qui subit des violences conjugales et je peux pas tout raconter, mais bon, elle va avoir besoin de mon aide en tout cas.
Bon, et va-t-elle passer du rôle de maîtresse au rôle de femme hein ? Ça, on sait pas.
Non, mais là, c'est terrible parce qu'en fait, cette histoire d'amour avec le bâtonnier de Lyon, Maître Rotivel, elle était parfaite avant. Quand il était marié, ça lui allait très bien. Elle n'avait pas du tout envie de plus, quelque part. Bon, elle manquait un peu de sa présence de temps en temps, mais sa liberté lui allait bien. Qu'est-ce qui lui a pris de divorcer ?
C'est ça qu'on se demande, franchement.
Qu'est-ce qui lui a pris ? Franchement, on se demande. Alors maintenant, bon, elle est un peu inquiète pour lui, parce qu'il gère très très mal son divorce. Donc, elle va essayer d'aider comme elle peut, mais bon, pour lui, c'est pas gagné. Mais en tout cas, il essaye de s'installer chez elle, il essaye de faire un couple. Elle veut pas de tout ça. Elle veut pas du tout de tout ça. Elle veut garder sa liberté. Et on va voir à la fin de la saison, il va lui poser une question affreuse auquel elle va pas savoir répondre. Voilà.
Et on aura la réponse quand même à un moment donné ou même pas. Du coup, ça va s'arrêter là-dessus.
On aura la réponse dans la saison 3. Maintenant, ouais. Voilà, on va laisser aux gens le soin d'imaginer la suite.
Exactement, laissez voilà, courir votre imaginaire. Nous en tout cas on va se délecter de ces deux derniers épisodes mercredi. Des projets pour toi Catherine tout au long de cette année, on te verra dans une nouvelle série hein, d'ailleurs pour France 2, le Système D, et on va te voir au théâtre aussi. Tu mets en scène aussi un humoriste hein, qu'on aime beaucoup, Cartouche.
Oui, Cartouche est toujours en tournée un peu partout dans toute la France. Je vais effectivement être dans un épisode de Système D, nouvelle série de France 2. Et puis sur TF1, là, la chaîne d'en face, avec Jean-Luc Reichmann, je suis retournée faire un flic de la crime, voilà.
Dans Léo Mattei.
Dans Léo Mattei, voilà, le célèbre, le bien nommé. Et puis je vais retourner un peu au cinéma aussi, avec un premier long métrage de Charlène Favier qui s'appelle Slalom, avec Jérémy Régnier sur le milieu du ski, de la compétition de ski. Et puis le scoop Alain, pour vous, le scoop.
Alors vas-y, on t'écoute, on est tout
truc. Le prochain long métrage d'Olivier Marchal, il verra le jour, qui va rentrer en préparation au printemps là, il va s'appeler Bronx, voilà, nouveau polar. J'ai l'habitude d'aimer ce qu'il fait, mais là particulièrement c'est un scénario explosif, c'est une bombe atomique ce scénario. Donc on va retourner dans les affres d'Olivier Marchal, tournage à Marseille, avec des flics, des voyous, mais ça va, voilà, ça va être formidable. Donc j'ai très très hâte aussi de retourner avec lui, ça faisait longtemps. Donc je vais retourner faire un flic, mais moi j'adore faire des flics, il n'y en a jamais assez.
Eh bien on vous attendra, bien sûr, pour des avant-premières de ce film, hein. Paris tenu, hein. Là vous venez,
oui,
hein.
Là on vient. Hein.
Là vous venez mettre le Bronx en Nouvelle-Aquitaine.
On vient mettre le Bronx à La Rochelle et partout dans la région.
Bon, et ben on t'embrasse en tout cas très fort Catherine, on te souhaite plein de belles choses et puis donc une année 2019 bien occupée, on te souhaite une bonne année parce que c'est encore le moment. Et puis on va se quitter avec un petit extrait évidemment de ces deux derniers épisodes, rien que pour vous chers auditeurs en avant-première. Merci Catherine, à très vite.
Merci à tout le monde et bonne année.
Benoît, regarde-moi s'il te plaît.
Je peux pas vivre sans toi. Marianne, je sais pas comment il faut te le dire.
Benoît.
Quoi ? Benoît, putain.
Vas-y, vas-y, dis-le-moi. Dis-le-moi que tu m'aimes pas. Vas-y, dis-le-moi.
Ne me fais pas ça, je t'en supplie. Je t'aime.
On va marquer une courte pause dans Chute, on écoute la télé pour vous faire découvrir Ella Foy. C'est notre découverte musicale de la semaine. Alors à tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. La découverte musicale. Chute, on écoute la télé.
Allez, découverte musicale dans Chute, on écoute la télé. Je suis très heureux d'accueillir le groupe Ella Foy qui est avec nous. Bonjour à tous les deux, bonjour Romain et bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est une découverte musicale, j'avais envie de vous faire partager, de par le grain de voix d'Hélène, que moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu en live. Tous les deux, j'aimerais déjà qu'on fasse un petit peu le portrait d'Ella Foy. Comment est née Ella Foy? Qui c'est qui veut s'y coller? Romain?
On s'est rencontrés pour un concert il y a 4 ans. Et depuis, on travaille ensemble et c'est un grand bonheur.
Elle s'y est pris tout de suite, Hélène.
Assez vite, effectivement, quoi. On est monté sur scène, on a joué ensemble et on a su que ça collerait, quoi.
Alors, premier album, Walking in the Space. On sait toujours que aujourd'hui un premier album, c'est toujours un peu compliqué à monter, que ce soit financièrement, les maisons de disques, etc. Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé assez simplement. On avait des titres, on avait l'opportunité d'investir un studio, donc on l'a prise. Et puis après, on a sorti notre album via Crystal Productions, qui est notre boîte de prod actuellement.
À Rochefort, je crois.
Le studio est à Rochefort, donc effectivement, on a enregistré à Rochefort. Et voilà, et donc nous, on enregistrait déjà en fait, des EP depuis plusieurs années, mais à la maison. Donc là, on l'a fait en studio, donc c'est vrai que la qualité de son est bien au-dessus. Et voilà, et maintenant, on essaye de le défendre et de le faire connaître aux gens.
Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cet album, Romain?
Alors, sur l'album, en fait, c'est nos compositions qu'on a depuis 4 ans. Donc, ça fait pas 4 ans qu'on travaille sur l'album, mais ça fait 4 ans qu'on joue ces morceaux en live. Et quand on a décidé de faire l'album, ça nous a pris quelques mois de les remanier pour qu'elles soient comme on voulait sur l'album.
Comment vous répartissez les tâches, tous les deux, au niveau? Parce que là, vous avez tout composé, tout écrit sur cet album, vous-même.
À deux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on compose et on écrit à deux. Et tout. Et après, les tâches, il n'y a pas vraiment de hiérarchie ni de rôle.
Il n'y en a pas un qui écrit, l'autre qui compose. Non, vous faites tout,
assez,
tous les deux.
C'est assez mélangé, ouais.
Quel est le premier titre qui est né de votre duo, Hélène?
Je pense que le premier qu'on a joué, c'était Walking in the Space.
Quel titre de l'album?
Quel titre de l'album? Et le premier titre vraiment qu'on a composé à quatre mains, c'est Souvenir of Love, qui est aussi sur l'album.
Alors, il y a des titres en français, il y a des titres en anglais, on oscille un petit peu et on parcourt cet album à travers les deux langues. Mais est-ce que vous avez une facilité à trouver l'inspiration plus dans une langue qu'une autre?
Non, c'est en fonction de ce qu'on a envie de raconter, surtout, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. On a commencé en anglais, puis après on s'est collé au français. Peut-être que le français est un peu plus dur parce que c'est notre langue maternelle et pour dire des choses. C'est un peu plus compliqué, ça demande peut-être un... Enfin, c'est moins fleur bleue, quoi, l'anglais, quoi.
On est peut-être aussi un petit peu plus exigeant avec notre propre langue, en fait. Par rapport... puis en France, il y a une grosse tradition de la chanson française avec une vraie exigence au niveau parole. Et nous, on est bien dans cette lignée-là. Donc c'est vrai qu'on a plus de titres actuellement en anglais qu'en français, mais on est de plus en plus inspiré en français, donc affaire à suivre.
Le public commence à adhérer pour le coup. Vous faites pas mal de concerts un petit peu partout en France. Pour retrouver votre actualité, on peut déjà page officielle et la Foy pour vous retrouver.
La Foy sur Facebook. Si vous tapez la Foy sur n'importe quel moteur de recherche, vous avez le site et vous avez tout.
Alors évidemment, l'album, on peut le retrouver un peu partout dans le commerce. Il est distribué chez Sony. Ouais. On peut se procurer aussi via un site internet ou pas spécialement. On le trouve vraiment dans tous les bons espaces culturels.
Oui, normalement, il est dans tous les bons espaces culturels. S'il ne l'est pas, réclamez-le.
Alors, ce qui peut être top aussi, c'est carrément de venir vous voir en live. Comme ça, on se fait une idée et on peut vous acheter l'album à la fin du concert.
Et on a même sorti des vinyles.
Ah ouais, ça c'est carrément... Alors, ça c'est tendance en plus. Hein.
Exactement, on se trouvait que ça s'y prêtait plutôt bien.
Alors, on va découvrir un premier extrait de cet album, Walking in the Space. Hélène, je te laisse choisir. Honneur aux filles. T'es d'accord, Robin?
Oui, bien sûr, bien sûr.
On va mettre Les Envolées Sauvages, alors.
Allez, Les Envolées Sauvages, on écoute tout de suite. C'est le premier extrait de Walking in the Space qu'on écoute tout de suite. C'est Ella Foy qui sont nos invités dans Chute, on écoute la télé.
Au son des envolées sauvages, j'étais épris. Au son s'envoler sauvage, j'étais conquis. Cours sans fin, douce mélancolie. La mer désorientée, vers des astres fatigués, au risque de ne jamais, jamais se relever. Se laisser asphyxier par nos allures.
Allez, de retour dans Chute en écoute la télé avec Ella Foy qui sont nos invités. Alors, on a découvert un premier extrait de cet album Walking in the Space. C'est le premier album d'Ella Foy. Alors, on a parcouru un petit peu le passé avec vous. Alors, vous avez eu la chance, pour le coup, en novembre, d'avoir été choisi par le Festival du film d'aventure pour être la bande-annonce, la musique de la bande-annonce. Ça, ça doit faire plaisir, ça doit être une belle reconnaissance, non ?
Ça fait très plaisir, surtout que c'est la deuxième année qu'on récidive, si on peut dire. L'année dernière, ils avaient pris un de nos titres qu'on était en train d'enregistrer au studio. Ça avait tout de suite marché et cette année, c'est une commande. En fait, ils nous ont commandé un titre.
Donc c'est une composition qui a été faite exprès pour le festival du film, qui n'est pas sur l'album. Hein.
Non. Effectivement, ouais. Spécialement pour le festival. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et l'exercice n'est pas forcément évident, mais très stimulant. Et du coup, on a composé ce titre, Somewhere Else, qu'on retrouve pour le coup... qui est diffusé qu'en numérique pour l'instant, sur Deezer, Spotify, tout ça, vous le retrouvez.
Voilà, découvrez-le ce titre parce qu'il est très très beau aussi et je vous conseille vraiment. Tiens d'ailleurs, on pourrait s'en écouter un petit extrait. Parce que Moi c'était un vrai coup de cœur, tiens. Ça s'appelle Somewhere.
Somewhere Else.
Somewhere Else. Allez, avec l'accent anglais. En tout cas, ce très bel album, vous l'avez composé, on le répète, mais vous l'avez fait vous, composé, écrit. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré ?
Oui, mais ce qui est très bizarre et très enrichissant à la fois, c'est qu'avec Hélène, on n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux. Et on se retrouve sur pas mal d'artistes et c'est assez rigolo parce que c'est ceux qui sont les plus proches de notre musique. Quoi. Et ça me fait toujours rigoler. Quoi. Par exemple, on va de Agnès Sobel en passant par... Kimber Rose, des choses un peu comme ça, ou Aléla Diane, quoi. C'est très marrant qu'on se retrouve sur des paysages comme ça.
Et toi, Hélène, quelles sont tes inspirations? Quels sont tes artistes que tu aimes, dans lesquels tu peux puiser peut-être une inspiration aussi?
Moi, je trouve ça très très difficile de répondre à cette question parce que personnellement, j'écoute énormément de musique. Mais après, je dirais que j'ai un peu des piliers comme les Beatles, Otis Redding, des vieux de la vieille là qui, personnellement, je pense m'ont beaucoup influencé. Mais après, je pense qu'on est influencé dans notre quotidien en permanence par des choses qu'on entend, qui nous plaisent, où on se dit tiens, ouais, ça, c'est intéressant et on le développe et ou pas. Des fois c'est conscient, des fois c'est pas conscient. Donc c'est vrai que c'est un process qui est assez étrange parce que on n'a pas du tout de contrôle dessus en fait.
Alors un premier album, une fois qu'il est fait, qu'il est en vente, il appartient au public évidemment puisque maintenant c'est le public qui va en faire son succès. On pense déjà, j'imagine, à la suite, à un deuxième album éventuellement. Est-ce que vous avez des envies, par exemple, de collaboration ?
Oh bah nous, on a envie de tout, on est ouvert à tout, donc on n'est pas fermé. Donc voilà. Après, clairement, dans le milieu, est-ce que ça se présente ? Je ne sais pas. Je pense que c'est plus le moment qui fera qu'il y aura une rencontre et puis ça matchera. Et on est très, nous, on a besoin que ça se passe bien humainement avec les gens. Donc je pense que ça se passera plus comme ça pour nous si on doit collaborer. Mais après, le fait de ne pas avoir de collaboration aujourd'hui prévue avec d'autres artistes, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets. Hein.
Des projets ou des envies, voilà, très bien, oui aussi. Romain, tu as des envies particulières justement toi aussi dans ce domaine ou pas ?
Bah, j'ai des envies de qu'on perdure et surtout qu'on, voilà, que les choses continuent d'avancer aussi bien qu'elles avancent aujourd'hui. Mais ça demande certes beaucoup d'énergie, mais c'est très enrichissant et humainement et musicalement. Et voilà, donc on continue d'avancer avec... comme on sait faire.
Eh bien, en tout cas, je vous invite à découvrir ce très bel album De La Foye. Ça s'appelle Walking in the Space et on va vous faire découvrir, eh bien, tout de suite un deuxième extrait de cet album. Alors, lequel vous avez envie qu'on passe maintenant ?
On va passer un morceau qui s'appelle Rocks in My Shoes.
Rocks in My Shoes. Eh bien, c'est du rock dans mes chaussures, c'est ça ?
C'est ça. Vous savez, c'est surtout les petits quand on a un caillou dans les chaussures, enfin, ou des cailloux surtout là dans ce cas-là dans les chaussures et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est très handicapant pour marcher.
Eh bien, je vous laisse embarquer par la musique De La Foye. Merci infiniment, Hélène, aussi.
Ben, merci à toi. À bientôt.
Et puis, à très, très vite. Et La Foye, c'est maintenant dans Chute, on écoute la télé. Rocks in my shoes.
I got a rock in my shoes. I can go further. I need a minute for the news. Would it be better to let it in the ground? All my thoughts in my pocket, in my heart, in my small head. If I burn the feather, maybe this thing will conquer. And if I feel so confused, so stuck in my loop, alright, wherever I go, I still walk in this spiral. And I'm really tired.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Voilà, juste le temps pour nous d'enfiler les Moon Boots et on se retrouve dès demain au Festival du film de comédie et bien de l'Alpe d'Huez. Vous allez pouvoir le vivre hein, tout au long de la semaine sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, Chute, on écoute la télé, bien évidemment, des Facebook Live, les photos jour par jour au quotidien. Et on vous prépare pour lundi prochain une émission de folie avec les artistes du festival qui seront avec nous. Alors, on parlera avec des nouveaux talents, Alexandra Lamy, la présidente du jury, qu'on essaiera évidemment d'avoir avec nous pour cette émission exceptionnelle. Lundi prochain, on parlera également de la série Mike, hein, c'est la nouvelle création OCS et c'est Max Boublil qui sera notre invité exceptionnel. On parlera aussi du début de la série Philharmonia sur France 2 avec Laurent Bateau qui sera notre invité. Donc vous l'avez vu, on va pas s'ennuyer. Je vous donne donc rendez-vous tout au long de la semaine et puis lundi prochain pour cette spéciale.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chute, on écoute la télé, la quotidienne sur Zoom Radio à 10h45 et 12h30. Et puis évidemment, je vous donne rendez-vous pour la grande hebdo dès lundi prochain à 18h. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et une très belle soirée évidemment à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé avec votre jardinerie Ast Vert, votre spécialiste jardin, alimentation animale et motoculture à Saint-Astier.
Chute, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.